Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Haïm Sitruk. Bonne écoute et bon limoud.
Alors nous allons étudier un texte, mesdemoiselles, messieurs, de notre maître le Rav Haïm Shmulevitch, dont il nous arrivait souvent d'étudier les enseignements. Et donc celui que vous avez sous les yeux, je vais vous rejoindre, voilà j'y suis, va en fait poser le problème suivant. Comme évidemment on n'a jamais le temps de tout lire, surtout aujourd'hui je suis arrivé en retard, on va dire juste le début. Ktiv saru maher mina derer asher tivitim. Asulahem Egel Masecha. Ce verset de la Torah, Shemot chapitre 32, verset 8, est écrit juste après le Vaudor. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, descend de la montagne, lech red minar, kishichet amecha. Car ton jour, c'est pas marqué, je vous dis, c'était marqué juste avant. Ton peuple s'est corrompu, saru maher. Ils se sont écartés vite du chemin que je leur avais ordonné. Ils ont fait un veau d'or. Alors la question que le Rav pose à partir d'une Gemara dans Shabbat est la suivante. Généralement, le Yetzer Hara, comment il fait? Il séduit l'homme comment? Tout doucement. Il lui dit, tu as une copine à la fac. C'est juste pour étudier avec elle, hein, pour réviser les cours. Genre, elle me passe les polycopes. Puis, on va boire un café après ensemble. C'est la moindre des choses. Puis je paye le café, elle me dit, mais non. And so on. Léat, tout doucement, on se laisse séduire et on tombe dans le panneau. Ça, c'est le chemin du etc. Là, il y a un mot qu'on va essayer d'expliquer, qui est le mot-clé de cet enseignement, « Saru maher ». Ça veut dire quoi, « maher » en hébreu ? Vite. Ils sont vite tombés. Et là, je voudrais bien que vous sentiez la question. En effet, à quoi on parle et à qui on parle ? On parle aux Béné Israël, qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu tous les miracles de HaKadosh Baruch Hu, phénoménaux. Les 10 plaies, la traversée de la mer Rouge à pied sec, c'est même pas banal. Ils sont sortis d'Égypte, les Égyptiens derrière, devant la mer, hop, elle s'ouvre, et ils passent au milieu. Ils passent au milieu, genre pas, en se mouillant les pieds, c'est pour le sable humide. Baya Bacha, le sable était devenu sec. Et les murailles, la mer faisait des murailles de part et d'autre de leur chemin. Et en plus, ajoute le Midrash d'ailleurs, il y avait de l'eau potable qui coulait sur les murs de la mer, comme ça ils se sont dressés, mais la mer est salée. Et là, ils avaient des sources d'eau douce. Il y avait Volvic, Vitel, Evian, etc., qui coulaient tout le long de leur parcours. Donc des miracles extraordinaires. Ils arrivent dans le désert, tout de suite on commence par les miracles, précisément ils trouvent une source d'eau qui était installée. Moshe Rabbeinu jette un morceau de bois qu'Hachem lui indique, l'eau devient douce. On fait boire l'assemblée qui était... Je vous rappelle que les Juifs, en sortant d'Égypte, ils étaient 603 550 hommes de 20 à 60 ans. Ce qui veut dire, multiplié par deux pour le nombre de femmes, ça fait 1,2 million. Ajouter au moins le double pour les personnes de plus de 60 ans, ça fait donc 2,4 millions. Ajouter les enfants, ils avaient tous des grandes familles, ça fait au minimum, je sais pas, 5, 6 millions de personnes. Faites boire 6 millions de personnes dans un désert, ils faisaient autre chose que des citernes. Ils ont bu de l'eau, donc vraiment, ils étaient choyés dans les miracles. Ils arrivent au Sinaï, Moshe Rabbeinu leur dit, on va recevoir le message de Hachem. Et voilà qu'ils arrivent devant cette petite montagne, qui d'un seul coup s'enflamme, comme un volcan. Ils entendent des tonnerres, des éclairs, dans ce spectacle déjà impressionnant, son et lumière, ils entendent la voix de Hachem. Ce qu'aucun homme au monde n'avait jamais entendu et n'entendra jamais. Et ce créateur dit « Anochi Hachem Elokecha ». Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Il y a de quoi avoir la chair de poule, être impressionné. On dit que le son de la voix était tellement puissant que les béné Israël ont reculé de 12 kilomètres en sauté. Devant la puissance de... Ça devait être des mégawatts qui sont sortis du Sinaï. Tout ça, qu'est-ce qui se passe? En bas, mon cher Rabbeinu leur dit, je cherchais les tables de la loi. Il monte, il a 6 heures de retard. En fait, ce sont eux trompés sur le compte. Il leur a dit, je reviens dans 40 jours. Et eux, ils ont compté à partir du lendemain. Alors, ils ont compté à partir du jour même, alors que mon cher Rabbeinu aura dit, je reste 40 jours à partir de demain. Donc, à la date convenue, mon cher ne vient pas. Et là, déjà, je vous donne la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours des gens mal intentionnés qui répandent une nouvelle. Moshe Rabbeinu est mort. Le peuple juif, il atteint immédiatement de désespoir. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est lui qui nous a fait les miracles d'Égypte, qui a envoyé les plaies au Pharaon. C'est lui qui nous a asséché, transformé un cours d'eau en salé, en eau potable, qui a ouvert la mer. Maintenant, qui va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Non, on est perdu. Et en même temps, le Satan, dit le Midrash, en a profité pour obscurcir le ciel, pas comme à Marseille. D'un seul coup, le ciel est couvert de nuages noirs, angoissants. Il y a des gens qui ont commencé à dire, regardez, le cercueil de Moshe Rabbeinu là-haut, ils ont vu quelque chose vaguement qui se baladait dans l'air, et le bruit s'est répandu. Les béné Israël étaient donc, terminez ma phrase, anéantis. Anéantis, c'est un peu fort, mais c'est, ben, j'accepte. Non, mais c'est ça. Et à ce moment-là, quelques gens mal intentionnés leur disent, ben, qu'à cela ne tienne, on va le remplacer. Comment on va le remplacer? Ils se sont fabriqués une idole au pied du Sinaï, un veau en or. Et tout le monde s'est mis à danser autour du veau d'or. En disant, voilà notre nouveau Dieu. Vous voyez un peu la bombe. Rachel dit à Moshe, redescend vite. En bas, c'est le balagan. Ils ont commencé à tout lâcher. Ils se sont déjà convertis à l'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont allés tellement vite? Dans ce que j'ai dit à la réponse, pourquoi ça s'est passé tellement vite? Ils ont été désespérés. Dans le désespoir, on va appeler ça aujourd'hui la déprime. L'homme, il est capable de faire n'importe quoi. Alors, le thème du cours de ce soir, c'est de vous expliquer en quoi la déprime est dangereuse. Pas seulement elle coûte cher à la sécurité sociale, mais elle détruit l'homme. Elle rend l'homme capable de n'importe quoi. Dans la vie, on peut avoir des épreuves. On peut avoir des soucis, des problèmes. Il ne faut jamais déprimer. Quand on déprime, c'est la porte ouverte à tous les excès. Comme on le voit d'ailleurs, que les gens dépressifs sont parfois capables de se suicider. Ils sont capables de tuer des gens. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Les béné Israël, qui sous la conduite de Moshe Rabbeinu, sortent d'Égypte, qui a été la génération qui a vu le plus grand nombre de miracles qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais. D'un coup, un blues, hop, il tombe dans le trou noir. Alors, on va voir ça d'un peu plus près. Excusez-moi. Cet enseignement, le Rav donne la source, c'est dans la Gemara de Shabbat, Daf Pet, page 89. Ensuite, le Rav nous apporte d'autres exemples pour étayer cette thèse. Le deuxième exemple se trouve être en bas de la page, quelques lignes avant la fin de la première page. Je dis, c'est souligné, Vayehi, Biyotam Basade, Vayomer Kain El Hevelachim. Alors, je traduis littéralement, alors qu'ils étaient dans un champ, Caïn parla à son frère, et il se leva et le tua. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, rien ne laissait prévoir le crime. Vous vous rendez compte ce que c'est que ce crime-là? Un criminel est toujours odieux, mais quelqu'un qui tue son frère, alors qu'il n'y a que deux habitants sur la terre, lui et son frère, chose très dure à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement avant, Caïn avait pris l'initiative d'offrir un sacrifice à Hachem. Hevel, Abel en français, a fait la même chose. Dieu a agréé le sacrifice de Hevel et pas celui de Caïn. Caïn a déprimé immédiatement. Il a commencé à dire c'est pas juste. Le Midrash que vous l'avez là cité, mais c'est pas la peine de. Il a dit Led Din, Led Dayan, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de juge, tout est immoral. Il a commencé à blasphémer immédiatement. Pourquoi? Parce que son corban n'a pas été accepté. Entre une parenthèse, pourquoi il n'a pas été accepté? Tout simplement parce que Caïn a offert à Hachem ce que je vais appeler, d'un mot un peu brutal, le surplus. Ce dont il n'avait pas besoin. Hevel avait offert à Hachem ce qu'il avait de plus beau. On parle de récolte de blé, on parle d'animaux. Vous avez un troupeau, vous dites quand même c'est grâce à Dieu que mon troupeau il a grandi. Je vais offrir une brebis à Hachem. Imaginez que pour l'offrir, vous preniez une brebis qui a une patte cassée, qui est un peu tordue, qui a toutes sortes de défauts. C'est pas un honneur pour le Créateur de lui offrir un sacrifice minable. C'est ce qu'a fait Caïn, il n'a pas compris qu'il n'a pas été accepté. Alors il s'est fâché, et en se fâchant, il a déprimé. Et il a dit, comme j'ai dit à Frère tout à l'heure, il n'y a pas de justice. Pourquoi moi on me refuse? Il a vu que son point de vue. Il n'a pas réalisé que son frère avait fait mieux que lui. Et il se lève et il le tue, estimant que c'est à cause de lui qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà encore un exemple brutal. J'insiste sur le verset qui dit bien. Et ils étaient dans le champ, ils parlaient, et d'un coup il s'est levé, il l'a tué. Rien ne laissait prévoir. C'est le même état d'esprit, les mêmes circonstances qui ont poussé Caïn au pire. On tourne la page. On voit un troisième exemple. Il commence au deuxième paragraphe. Vayetse ben Isha Israelid. Vaïkov ben Aïcha Israelid et Hachem. Alors je vais ici vous expliquer de quoi il s'agit. Quand les Béné Israël étaient en Égypte, le Midrash dit qu'il n'y en a pas un seul qui s'est marié avec une Égyptienne ou bien une Égyptienne ou bien un Égyptien qui a épousé une Juive. Sauf un exemple. Une femme, qui s'appelle Shlomit Bat Divri, la Torah donne son nom, et son père, elle était de la tribu de Dan, belle cette dame. Elle a eu un rapport avec un Égyptien, duquel est né un enfant. entre guillemets, c'est le premier mariage mixte de l'histoire. Écoutez la suite. Les béné Israël sortent d'Égypte, ils campent dans le désert. Et là, Hachem donne l'ordre à Moshe Rabbeinu de regrouper les béné Israël par tribu. Là, Dan, Shimon, Reuven, etc., etc. Ils étaient tous regroupés par tribu. Et voilà que ce monsieur, il vient poser sa tente à la tribu de Dan. Alors on lui dit, c'est pas la place ici. Il dit, mais ma mère est de la tribu de Dan. On lui répond, mais l'Alakha nous dit que c'est vrai que la religion dépend de la mère, mais la tribu dépend du père. Par exemple, même encore aujourd'hui, si quelqu'un a un père Cohen, il est Cohen. S'il a une mère Cohen, il n'est pas Cohen. Parce que Cohen, c'est une tribu, la tribu de Lévi. Donc, les tribus suivent le père, la religion suit la mère. C'est indigne de la Torah. Alors, il est allé protester. Il a dit, je veux voir le tribunal rabbinique, le Beddin. Le Beddin lui a donné cette réponse. Il est allé voir Moshe Rabbeinu qui a confirmé que ce n'est pas le Beddin qui avait eu cette lubie, mais que c'était l'ordre que Hachem avait donné. Que fait cet homme? Immédiatement, il a blasphémé. Il a barminan maudit le nom de Hachem. Évidemment, il a été, comme la Torah le prévoit en pareille matière, mis à mort tout de suite. Qu'est-ce qui a fait que cet homme a blasphémé? On voit le troisième exemple, le troisième crime. Pourquoi il a blasphémé? Déprimé, pourquoi? Parce qu'il dit, mais où est ma place? Entre parenthèses, vous noterez une chose. Même encore de nos jours, la psychologie d'un enfant de mariage mixte est très dure à supporter. Il se demande qui il est. Moi, je vais vous citer un exemple que vous connaissez peut-être et que j'ai déjà raconté dans mes cours. Nous avons installé notre bête à Midrash à la rue Garnier. Vous connaissez, Aleph. Je vais vous raconter en quelques mots comment on a choisi Adam. À l'époque, bon, j'allais moi-même donc à la synagogue de la rue Anselme, mais pour des raisons X, je voulais développer l'étude et tout. C'était impossible là-bas. J'ai donc dit, il faudrait qu'on ait un autre local pour développer le niveau de l'étude, et etc. Je cherchais un local. Avec d'ailleurs M. Canoui, qui est devenu mon voisin entre-temps, je marchais dans la rue, et puis d'un coup je m'arrête comme ça. Je lui dis, très bien ici. Mais il me dit, mais Rav, il y a marqué ni avant ni à louer. Je lui dis, viens, on entre. Je suis rentré avec lui. C'était un local en très mauvais état. 25 rue Garnier. Et puis, nous rentrons, et puis finalement, on réussit à le louer. Enfin, on a fait des travaux, etc. Et puis finalement, on l'a acquis, et c'est là-bas qu'il y a maintenant notre bête à mitraille chez notre école. Mais j'apprends, ce faisant, que ce local appartenait à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle René Goscinny, qui est le papa de Astérix. Vous connaissez Astérix? Alav Shalom. Bon, ben, celui qui a créé le personnage s'appelait René Goscinny. On s'installe là-bas, ça c'est apparemment un épisode, non? Quelques temps après, il y a une jeune femme qui demande à me voir. Elle se pointe, elle me dit, oh, monsieur Rabin, je suis madame Goscinny, la fille de René Goscinny, Anne Goscinny. Très bien. Voilà, je suis venu en fait vous demander, voilà pourquoi j'y pense, qui je suis. Qui vous êtes? Venez me dire qui vous êtes. Non, je ne parle pas de ma... Je suis juive ou pas? Alors elle me raconte évidemment que sa mère ne l'était pas. Et je lui dis la vérité, ben vous ne l'êtes pas. Elle n'a pas déprimé. Et que vous avez fait une histoire, elle est très belle. Et me dire, qu'est-ce que je dois faire? Faites ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas poussé quelqu'un à se convertir, mais vous n'êtes pas juive, d'après la religion juive. Bon. Elle me dit, mais je voudrais vous poser une question. Voilà, mon père, avant de mourir, il avait demandé à être enterré au cimetière qui est à Paris, de Montmartre, un vieux cimetière juif. Là où il avait un caveau familial de ses parents, etc., on l'a enterré là-bas. Et puis, quelques années après, ma mère, quand elle était malade, elle ne se sentait pas bien, elle a acheté un caveau à Nice, près de sa famille, qui est catholique. Et avant sa mort, elle a voulu transférer le corps de mon père dans son caveau à elle, pour qu'il soit enterré en même temps. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, cette dame me raconte ça. Je lui dis, maintenant elle vient, elle me dit, moi j'attendais, et qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, écoutez, madame, si vous me demandez déjà, ce qu'il faut faire, c'est reprendre le corps de votre père, comme il l'a souhaité, le remettre au cimetière dans lequel il a été enterré d'abord. Entre parenthèses, pour venir aussi, une des choses les plus dramatiques des mariages mixtes, c'est que la femme, qui est goy, elle lâche pas son mari. Moi, j'ai connu énormément d'exemples, comme ça, où elle a voulu être enterrée avec son mari, comme d'après la Torah, on ne lui permet pas d'être dans un cimetière juif, elle l'a pris dans un cimetière goy. C'est arrivé plusieurs fois. Bon. Alors, je lui ai dit, faites ça. Bon. Évidemment, elle était un peu surprise. Puis après, Sidja, elle était avec moi, elle s'est sentie en confiance. Elle me dit, je peux vous demander autre chose. Je vous en prie. Voilà, je suis marié depuis 8 ou 9 ans, je n'ai pas d'enfant. Alors je lui dis, écoutez madame, si vous faites ce que je vous ai dit, vous allez avoir un enfant. Moi j'ai pris un risque. J'ai dit, oh mon Dieu, je ne me lâche pas. Hein. Attendez, la fin de l'histoire, elle est très belle. Puis bon, puis j'entends plus parler de cette dame. Elle revient me voir ici d'ailleurs. Je donnais un cours un jeudi soir pour me dire la chose suivante. Elle me dit, monsieur le rabbin, je voulais vous dire que j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai transféré le corps de mon père au cimetière juif et je suis tombé enceinte le soir même. Bam, 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 bam. Je dis, regardez, vous êtes trop sympa. À ce point, elle était épatée. Elle a, par ce petit épisode, compris que le Hémet, il est quelque part où elle n'était pas. Voilà pourquoi je vais vous raconter l'histoire jusqu'au bout. Parce qu'il y a plusieurs enseignements, bien évidemment. Mais revenons à notre récit. Comme ça, vous connaîtrez tout de la genèse de Aleph. Un épisode qui n'est pas très connu. Je suis moi, voilà. Donc l'homme qui a blasphémé, il s'est trouvé en déprime, il n'a pas trouvé sa place, il a cru bon que je vais aller insulter Hachem Barminan. Dernier exemple, j'ai mis un petit point au crayon encadré dans, au milieu de la page, la feuille numéro 2 là. C'est l'exemple de Orpah Kalat Naomi. Je vous explique de quoi il s'agit. Là, on est dans la Megillat Ruth. Vous connaissez l'histoire de Megillat Ruth, je vous la résume en deux mots. C'était donc une période où en Israël, c'était des juges juifs qui gouvernaient et c'était une période de famine. Et malheureusement, quand il y a la famine, à cette époque-là, il n'y avait pas de quoi manger, pas choute. On ne pouvait pas thésauriser les aliments, on ne pouvait pas les conserver, les gens mouraient de faim. Il y avait donc une période de famine en Israël. Parmi les gens qui vivaient là-bas, il y avait une dame qui s'appelait Ruth. Elle avait épousé un monsieur duquel elle a eu deux enfants. Ces deux garçons ont épousé deux femmes non-juives, qui étaient en fait des princesses moabites. Moab, c'est la contrée qui aujourd'hui s'appelle la Jordanie. Et les choses étant ce qu'elles sont, la Megillat Ruth nous raconte que ces deux messieurs sont morts au bout de quelques temps, sans laisser d'enfants. Alors Ruth se retrouve donc, Naomi, la mère de ces deux garçons, se retrouve veuve, sans enfants, avec ses deux belles filles. Alors elle leur dit, écoutez les enfants, retournez chez vos parents, moi qui ne vais pas pouvoir vous nourrir, j'ai rien, vous savez que la veuve à l'époque surtout, elle n'avait aucun revenu, il n'y avait pas d'allocation familiale, Il n'y avait pas d'indemnité, il n'y avait rien. Les gens mouraient de faim. Elle aurait dit, retournez chez vos parents, ils sont riches, faites votre vie, vous êtes jeunes, remariez-vous, etc. Elle leur dit de continuer. Et voilà que ces deux belles filles ont une attitude admirable. Elles lui disent, non, on ne te laisse pas, on vient avec toi. Elle insiste. Au bout d'un moment, il y en a une des deux qui craque, qui dit, bon, d'accord, elle s'appelait Orpa, je retourne chez mes parents. L'autre, Ruth, lui dit, je viens avec toi. Malgré l'insistance de Naomi, elle la suit. Elle lui dit, j'irai là où tu iras, je vivrai là où tu vivras, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, je mourrai là où tu mourras. Elle n'a pas lâché. Ruth est depuis considérée comme le prototype même de la vraie convertie. C'est quoi une conversion? C'est Ruth. C'est quelqu'un qui était totalement désintéressé. Elle n'avait plus son mari. Elle n'espérait pas épouser un juif. Elle est allée avec sa belle-mère qui était pauvre. Elle n'avait aucun avantage d'ordre matériel, spirituel, social, rien. Par simple amour. Elle est restée près d'elle. Elle ne l'a pas lâchée. Et après, vous savez que Ruth va connaître un destin fabuleux. Parce qu'en fait, comme le prévoit la halakha, quand un homme meurt sans enfant, le parent le plus proche doit épouser sa veuve et doit donner à son premier fils le nom de l'homme qui est décédé, qui s'appelle le Iboum en hébreu, le Lévira en français. Et il se trouve qu'on va retrouver par un hasard extraordinaire celui qui va épouser Ruth en deuxième noce, qui était un tzaddik et qui était un homme riche. Il va bien sûr s'occuper et de sa femme et de la belle-mère, et vont vivre une vie sereine, dans l'abondance. Mais surtout, il va avoir avec elle un enfant, qui aura un enfant, qui aura un enfant. Au bout de 6 générations, va naître de Ruth David Améler. Et de David Améler va naître un jour le Mashiach. Donc, l'ancêtre du Mashiach est une convertie. À bon entendeur, shalom. Ça, c'est juste pour la petite histoire, mais c'est pas le sujet. Moi, je voudrais m'intéresser 2 minutes à l'autre belle-fille, Orpa. Le Midrash dit qu'elle a quitté donc sa belle-mère en pleurant. Comme l'autre, elle a insisté, mais la route n'a pas craqué, elle est restée près d'elle. Elle a craqué, elle est rentrée chez ses parents. On dit, le Midrash dit que le soir même, elle s'est prostituée. Elle est tombée dans une déchéance morale totale. Voilà donc 3 exemples. Quelqu'un, Caïn, qui a tué son frère dans le désespoir. Le Megadef, qui a insulté Dieu dans le désespoir. Orpa, qui s'est livré à la prostitution dans le désespoir. Confirmant ce qu'on a vu au départ, que quelqu'un qui déprime, qui n'a plus où s'accrocher, qui n'a plus de repères, il peut tomber au fond du trou de l'abîme le plus profond. C'est un thème central de la vie. Ici, nous venons d'en voir des exemples dans la Torah elle-même. Excusez-moi, je perds à chaque fois la feuille. Maintenant, le Rav va passer à la deuxième partie de son chiot. Pourquoi ? Moi, j'ai appelé ça la déprime. Le Rav va dire plus que cela. Il le dit à partir d'un épisode qu'il ramène en bas de la deuxième page. Dans la Gemara de Chagiga, j'ai mis un point au crayon en marge à droite. Itab Chagiga daf he amud ben, Rabbi avanakit sefer kinod, je traduis parce que c'est de l'araméen. On nous raconte l'épisode d'un homme qui s'appelait Rabbi, fameux maître Rabbeinu, Akadosh Rabbi Yehuda, le rédacteur de la Mishnah, qu'on appelait tout simplement Rabbi, le maître. Et un jour, on nous raconte qu'il était assis quelque part en train de lire un livre de Kinot. C'est quoi les Kinot, Joseph? Qu'est-ce que c'est les Kinot?
C'est pas les Pinotim tristes qu'on lit à Tchabéam.
Bravo, c'est les prières qu'on lit à Tchabéam. Notamment, on lit la Megillat Echa, c'est-à-dire la lamentation de Jérémie, et d'autres textes très tristes en rapport avec la destruction du temple.
Juste une question qui me vient. Pourquoi il y a certaines communautés qui lisent Iov alors le jour de Tchabéam?
C'est après, non, ils disent quand même Echam, ils disent les Kinot, c'est pour rester à la synagogue, parce qu'il y a marqué que c'est une mitzvah de ne pas quitter la synagogue, au moins à Shachatzot, c'est-à-dire après-midi. Alors, pour garder les fidèles, on lit Iov, qui a 42 chapitres, il y a de quoi faire. Ça, les gens, ils restent et ils ne bougent pas. On les a scotchés, comme on dit. Alors, donc, ce rêve était en train de lire. Il est arrivé à un passouk dans lequel on dit, dans la Megillat Echa justement, « Ishlir mishamayim eretz » et Hachem a jeté la terre depuis le ciel. Il a fait littéralement tomber la terre depuis le ciel. Et à ce moment-là, la Megillah qu'il lisait est tombée de ses mains. Alors il a eu cette réflexion, « Amar » Meigera Rabba, Lebira Amista, d'un toit élevé jusqu'au puits profond. C'est-à-dire, il a noté que dans le prophète, Jérémie, on parle de la chute du peuple d'Israël. Et il a donc compris que la chute de Kouchelkam était beaucoup plus grave que la médiocrité. Et le Rav dit en dernière ligne de cette page, China ou Pirache, Kachemikulam. Là, écoutez bien, ben, ça mérite d'être bien compris. Il dit, le juif le plus dur, celui pour lequel la teshuvah est la plus difficile, vous savez, à votre avis, tenez, je vous pose la question. Qui est-ce qui a la teshuvah la plus difficile? Qu'est-ce que vous dites? Si je vous demande pour qui c'est le plus dur de faire teshuvah, qu'est-ce que vous me répondrez, oui?
Celui qui fait le moins de fautes.
Celui qui
fait le moins de fautes par rapport à l'autre.
Non, celui pour lequel c'est le plus dur.
Oui. Bah, parce qu'il il pense ne rien avoir à se reprocher.
Ah.
Et
il est bon, le petit, hein? Non, il est bon parce que moi j'attendais une réponse du genre celui qui a fait la faute la plus grave. Quelqu'un qui a fait les pires bêtises, voilà l'exemple qu'on a donné, il a tué, il s'est prostitué, il a blasphémé, la teshuva est dure. Non, donc c'est ton nom.
Il
a répondu, non, c'est celui qui fait les fautes les moins graves. Si tu permets, on va dire un peu différemment, mais c'est dans ce sens-là. Il ramène un texte de Khamim qui est en bas, en trois lignes. Shina ou Birash, Kaché Mikulam. La teshuva la plus dure, Kaché Mikulam, c'est Shina ou Piresh. Celui qui a étudié la Torah, il s'en est éloigné. Observez autour de vous. Moi, j'ai de nombreux exemples. Quelqu'un, par exemple, qui était jeune, est allé à la yeshiva. Il a étudié la Torah. Puis un jour, il a largué les amarres. Il a tout abandonné. Ça lui est très difficile de revenir vers la Torah. Comme a dit tout à l'heure Hillel, il croit que c'est tout. Il ne fait rien, mais il croit que c'est tout. Parce qu'il a déjà intégré la Torah un jour, il l'a mal intégré, il l'a mal compris, puisqu'il ne l'a pas mis en pratique. Il a abandonné, il a un mal fou à revenir. Vous voyez, en fait, je dis, il a vraiment bien trouvé, parce que c'est la proximité qui provoque le plus grand éloignement. Vous voyez ce que je veux dire? Tu comprends?
Il dit je connais déjà, quoi.
Voilà. Moi, j'ai vu dans ma vie, quand quelqu'un qui me demande de se situer, me dit, moi, je suis un juif traditionnaliste. Un mot qu'on emploie très souvent, surtout en Afrique du Nord. On employait d'origine d'Afrique du Nord. Traditionnaliste, ça veut dire quoi? Ben, je mange kachem, je fais Shabbat. Qu'est-ce que tu fais Shabbat? Kiddush. Couscous. Boulette. Couscous sans boulette. Donc couscous boulette. Et quand on fait le kiddush, on baisse la télé. Hein, pour pas pour moi qu'il y ait deux sons à la fois. Non, mais je suis très sérieux. Des gens comme ça, j'en connais énormément. Dans ma propre famille, on était comme ça. Je le dis sans aucune fierté. On était des juifs traditionnalistes. C'est-à-dire qu'on jeûnait à Kippour. Jeûner à Kippour, ça veut dire qu'on allait à la Sina vers le coup de midi. On restait sur le trottoir devant la synagogue jusqu'à 16h30, 17h. On rentrait un petit coup, puis on regardait la montre. Ça y est, c'est fini, on s'en va. Ça, c'est le juif traditionnaliste. Il fait kibbout pour lui. Il fait Shabbat pour lui. Il mange kasher une fois par semaine. Peut-être. Etc. Ça, c'est le pire. Parce qu'il a un peu appris, il a mal appris, et il fait tout de travers, il voit pas pourquoi il va faire tes choix. D'accord ?
Est-ce que c'est ce qu'on appelle les bénonis ?
Les Je dirais pas, ça peut ressembler à Benoni, ça veut dire moyen.
Non, ça peut... J'ai entendu comme ça un jour, quelqu'un qui est à la limite, qui est rachat, c'est le jour où il voit la vérité, il peut revenir
absolument.
Il a une conscience.
D'ailleurs,
celui qui est entre les deux, et je pense qu'il est un peu plus concerné, c'est pour ça qu'il est parmi nous. Hein. Bon, quelque part, comme il est entre les deux, ben justement, il a déjà une approche, donc il n'a pas.
Tu as raison, d'autant plus que par exemple dans la Gada de Bessar, vous rappelez, on parle de quatre enfants. On parle du Racham, on parle du Racham, on parle du Tam, et celui qui ne s'est pas posé de questions. Le maître dit c'est le quatrième qui est le pire de tous. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas posé de questions. Il ne voit pas en quoi ça le concerne. Celui qui est Racham, qui. Quand vous avez quelqu'un qui. C'est agressif. Souvent, parmi vos copains, vous avez des gens, vous leur dites « Moi, je joue au cours de ces trucs. » Ah, c'est tombé. La religion, c'est pourri. Celui-là, il va devenir un jour un racham. Tôt ou tard. Il vaut mieux tôt que tard, mais il reviendra. Celui à qui vous dites ça, il vous dit ça. Kézako. Vos isdos, s'il est allemand, donc tout ça, cette manière d'être indifférent, elle vient d'une Torah mal digérée. Alors maintenant, le Rav va nous démontrer, enfin va nous apporter, un ou deux exemples de gens qui ont évité la chute. Il y avait un roi d'Israël, dont vous avez tous entendu parler, il s'appelait Shlomo, Salomon. C'est un grand roi. Et voilà que il est tombé. C'est-à-dire qu'il est tombé, c'est-à-dire qu'il a mal agi. Et le prophète lui a dit, Dieu a décidé de te retirer la royauté. Et il va la donner à quelqu'un d'autre. Qu'a fait Shlomo ? À ce moment-là, il a supplié le prophète Samuel et dit, je t'en prie, reviens avec moi, ne me laisse pas partir. Il a voulu le renvoyer, il lui a dit, je peux revenir avec toi. Le prophète lui a dit, allez bon, viens. Pourquoi? Pour que le monde, pour que les gens me voient avec toi. Parce que le prophète était l'autorité morale du peuple d'Israël. En me voyant avec toi, ils vont encore un peu me respecter. Et que Shlomo, quand il a appris cette nouvelle terrible, au lieu de déprimer, ce qu'il a fait, il s'est accroché à Samuel. Il lui a dit, garde-moi près de toi. Et il l'a gardé. Bon, Shlomo n'a plus été roi, mais à la fin, il y a un verset que le Rav commente admirablement. Il dit, Bassof, Melech al-Maklo. À la fin de sa vie, Shlomo était un roi avec son bâton. Il lui restait qu'un bâton de la royauté. Il n'avait plus de sujet, il n'avait plus de pouvoir, il n'avait plus de richesse. Il était juste appuyé sur un sceptre, un bâton. Et l'Agmara dans Sanhedrin dit comme ça, il dit, c'était un roi déshérité, c'était un roi rejeté, mais on l'appelle encore Meller. Meller. C'est-à-dire qu'il a gardé encore la dignité du roi. Et on peut dire de Shlomo que malgré le mauvais virage de sa vie, il est resté dans sa dignité de roi jusqu'au bout. Grâce à cela. Parce qu'il a su s'accrocher. Donc, si nous retenons, mes chers amis, cette leçon de vie exceptionnelle que nous donne ici la Torah, dans nos vies, il peut arriver qu'on ait des échecs. Qu'on échoue des choses, qu'on soit exclu, qu'on n'ait pas réussi. On peut même être mis au banc de la société. Ça peut être très dur, surtout si précédemment on était l'objet de privilèges qu'elles font. Comment est-ce qu'on évite la déprime et la déchéance en s'accrochant, en continuant à faire quelque chose. Et par ça, on se reconstruit, on se réhabilite. Dans la vie, en fait, le plus dur, c'est pas de réussir, c'est pas non plus d'échouer, c'est de résister à l'échec. C'est de rester soi-même après l'échec. Il y a un épisode qui est raconté aussi dans la Gemara. Moi, je trouve terrifiant. Il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Perachia, qui avait des élèves qui le suivaient partout. Parfois, ce rav se déplaçait d'une ville à une autre pour répandre la Torah. Écoutez bien ce qui suit maintenant. Un jour, ce rav avec ses élèves arrive dans une petite ville où il est reçu par un monsieur et son épouse. Et ils sont très très bien reçus, alors qu'ils étaient évidemment une yeshiva entière. La maîtresse de maison leur fait manger, elle les reçoit bien, etc. Alors le rav, il a un mot devant ses élèves, il dit « Kama yafa arsan yazo ». Traduction en français, « Combien belle, et c'est un féminin, et cet accueil, arsania ». Il y avait un élève à lui, qui a compris que le rav parlait de la maîtresse de maison, en disant comme elle est belle, la femme qui nous accueille. Le rav, il entend ça. Il lui dit, Racha, sors d'ici, quitte ma yeshiva. Sur le champ, il la renvoie. Parce que non, l'élève lui a dit, elle n'a pas des yeux tellement jolis. Non seulement l'élève, il a pensé à mal, mais il a pensé, son maître pensait à mal. Quand il leur a dit, vous avez vu comme le bel accueil qu'on nous a réservé. Cet élève, il l'a renvoyé. Puis après l'élève, plus tard, a compris qu'il a fait une grosse bêtise. Il est venu demander pardon. Le rave lui a dit non. Il est revenu. 100 fois. Un jour, le rave avait décidé, si aujourd'hui il vient, je le reçois. Je l'accueille à nouveau. Le même jour, l'élève avait dit, s'il s'était dit à lui-même, si aujourd'hui il ne me reçoit pas, je ne reviens plus. L'élève revient donc chez le rav pour lui demander Mechila. Le rav était en train de dire le schéma. Dès que l'élève rentre, le rav est en train de faire ça. L'élève a compris qu'il ne voulait pas le voir. il a tout plaqué, il est parti. Alors que le Rav avait décidé de l'accueillir. Cet élève-là, il a créé une secte. Et c'est le futur fondateur du christianisme. Donc je ne veux pas dire le nom, mais vous savez tous de qui je parle. Il était l'élève de Rabbi Yehoshua ben Berachia. Il a fait ça parce que on l'a rejeté totalement. De là-bas, la Gemara venim, Leolam tie smol docham, yamin mekarevet. Il faut toujours rejeter avec la main gauche et retenir avec la main droite. C'est-à-dire ne rejeter jamais totalement quelqu'un. Il peut déprimer. Voilà ce qu'il a fait. Voilà. Il y en a un qui a fait une religion. Ce qu'on vous réalisez depuis 2000 ans, combien de centaines, de milliers de personnes sont mortes à cause de cela? Combien il y a eu d'antisémitisme chrétien? Parce que un élève a été vexé par son rab. C'est inouï. Moi, souvent, il y a des parents qui sont venus, par exemple, me dire « Voilà, mon fils, il sort avec une Goya, qu'est-ce que je dois faire ?» Je leur dis ça. Repoussez-le avec la main gauche. Retenez-le avec la main droite. Ne le renvoyez pas de la maison. On ne sait jamais. Vous le renvoyez, il peut faire n'importe quoi. Il peut s'éloigner totalement et aller savoir qu'est-ce qui va lui passer par la tête. Il peut faire comme tous les exemples qu'on a vus, mais qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je vais devenir? Non. Dites-lui si vous voulez, mon fils est toujours chez toi. Ici, c'est ta maison. On n'accepte pas ta femme. Parce que tu fais une erreur, répare-la si tu veux, ça veut dire divorce. Mais toi, tu es toujours chez toi ici. Les gens qui ont fait ça, qui ont eu la force, ils ont récupéré souvent leur enfant. Les autres, ils ont tout perdu. Et parfois même, ils se sont retournés contre nous. Parce que les pires antisémites sont d'origine juive, comme vous le savez. C'est une Gemara qui dit ça dans Guitine, page 46. Donc, j'ai encore perdu la page, mais je crois qu'on a fini l'heure, il est 8h, pratiquement. Bien qu'aujourd'hui, j'ai demandé qu'on retarde un peu l'office. Je voulais vous terminer juste sur une petite idée qui est un peu un prolongement du chiot de ce soir. C'est que on voit que dans la vie, le plus dangereux, c'est la chute. Pas l'état dans lequel on est, c'est quand on tombe. Voilà pourquoi. Je crois que c'est une question que sûrement vous vous êtes posée un jour, les uns ou les autres. Quand on lâche une mitzvah, même une petite, par exemple, je mets la kippa. Vous avez marqué qu'il faut mettre la kippa dans le Torah. On peut discuter. Mide rabbanan, mide oraita, minhag. C'est pas si grave la kippa. Mais quelqu'un qui prend sa kippa, qui l'achète, en fait, il a tout rejeté avec. Il accomplit un geste symbolique par lequel il ne veut plus avoir de rapport avec la Torah. Cet homme-là, il peut tomber très très bas. C'est pourquoi je dis toujours à mes élèves, à mes amis, à mes proches, ne reculez jamais. Quand on recule, on est sur une pente glissante. On ne peut pas savoir jusqu'où on va s'arrêter. Moi, j'ai eu un jour cette expérience, parmi mes expériences intrépides, je ne suis pas un héros, mais j'ai toujours beaucoup aimé la montagne. Je me souviens un jour, je faisais un séminaire avec des jeunes, et on était près dans un petit coin en Suisse, où il y avait au-dessus de notre chalet un glacier. Et moi, j'aime bien provoquer comme ça. Je dis, on fait une petite balade sur le glacier. Beau, beau, beau. Et je me rappelle, j'avais un de mes élèves, qui était très jeune à l'époque, 17 ans, pardon, 18 ans, qui lui avait un équilibre extraordinaire. Heureusement, il nous a sauvé la vie à tous. On était 7 ou 8, je ne sais plus. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui commence à glisser. Quand vous glissez la glacier, boum! Et puis, nous tous, moi y compris bien évidemment, on s'est mis à glisser. Mais glisser, c'est horrible. Quand vous êtes sur un glacier, un truc glissant, et vous perdez l'équilibre. Vous avez l'impression que vous allez tomber au fond de la terre. Et heureusement que ce jeune homme, il n'a pas perdu son sang-froid, il a tenu l'équilibre, et moi je me rappelle, je me suis accroché à lui, et il a... Allah. Et il nous a sauvés à tous. D'ailleurs, ce garçon, je vais même vous dire qui c'est, aujourd'hui il habite à Boulogne, il est le président de la communauté de Boulogne, il s'appelle Robert Regnès. Au cas où vous entendez parler de lui, dites-lui, c'est vous qui étiez sur le glacier avec Racine Truc il y a 30 ans. Pour vous dire, donner un exemple de ce que c'est que cette chute qui peut attendre l'homme dans toutes les circonstances de la vie et qui n'est plus capable de maîtriser après. Ça, il faut à tout prix éviter. Il vaut mieux avancer prudemment dans les mitzvot que grimper trop vite et se casser la figure. Parce que quand on en lâche une, on finira par lâcher toutes les autres. Cet enseignement-là, par lequel je voulais poursuivre le shiur d'aujourd'hui, en espérant qu'à vous tous, il vous aura appris une grande leçon de vie. Voilà, je voulais vous remercier de votre...
Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt.